Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La Tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour, c'est BNP Paribas, banque privée. Pour rappel, aujourd'hui, 25% des startups échouent dès les deux premières années de leur existence, et c'est jusqu'à 50% au bout de 5 ans. Et justement, BNP Paribas, banque privée, a lancé plusieurs initiatives afin de les aider à consolider leur réseau et à adopter dès le début les meilleurs choix patrimoniaux. Le groupe BNP Paribas accompagne aujourd'hui un tiers des PME et deux tiers des ETI françaises, mais aussi 85% du Next 40 et 78% de la French Tech 120. Vous pouvez demander un rendez-vous avec un banquier privé sur leur site internet, rubrique « Prendre rendez-vous ». N'hésitez pas également à les suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram @partnerinbusiness, tout attaché. Encore merci à BNP Paribas Banque Privée de nous faire confiance et de nous permettre de vous proposer ce podcast. Bonne écoute à tous. Est-ce que vous avez déjà entendu les gens qui vous ont dit « on fait pas de business avec ses potes ou la famille » et au contraire, vous, vous avez pris le truc inverse en se disant « non, c'est que avec les gens que je connais ». Voilà, là je pose la question à vous deux, je sais pas qui, qui est inspiré pour répondre.
Je vais peut-être répondre parce que j'ai d'arriver pas mal d'initiatives. Nous on a pris nos précautions, on a commencé vraiment petit à petit, donc on a commencé avec l'amitié, on était proche par le basket. Mais du coup Axel c'était le premier investisseur dans la boîte que j'ai cofondée X-Technologies. Et ensuite quand on a vu que ça marchait bien, on a fait nos gammes et là on est allé sur un projet comme Demos où on était... associé avec une intensité qui était plus grosse. Okay. Et en fait, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on fait monter l'intensité avec le temps et on s'assure de bien comprendre comment l'un l'autre travaille. On est hyper complémentaires d'un point de vue personnalité comme ce qu'on apporte sur la table et ça marche super bien pour nous. Et après, on est plutôt doué à communiquer. Donc, quand il y a des choses qui ne vont pas, on se le dit et ça, okay. C'est le plus important.
T'as beaucoup d'éléments, mais déjà sur la personnalité, après on va parler de communication, c'est un vrai art je trouve, qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Et malgré que je fasse des podcasts, moi à chaque fois qu'il faut que je lève la main, bon plus maintenant mais il y a encore quelques années, je bégayais, j'avais mon cœur qui battait. Mais déjà juste sur la personnalité, ouais tu peux étayer ces propos et c'est quoi ta personnalité Axel, c'est quoi celle d'Étienne? Est-ce que je peux deviner ou pas?
Tu peux, vas-y.
J'ai l'impression que Étienne va aller parler à plein de personnes. Et que toi, t'es plus réservé et t'es plus calme aussi, mais peut-être que je me trompe.
Non, je dirais pas ça. Je pense que c'est plus... je peux paraître comme ça de l'extérieur, mais je le suis pas forcément. Après, bon, sa personnalité, j'en ai parlé pas mal dans sa description. Après, pour revenir à ta question, je pense que les choses sont faites assez naturellement. Okay. Je pense pas qu'il y ait de réponse prédéfinie sur est-ce qu'il faut faire du business avec tes amis ou pas. Je pense qu'il y a des cas dans lesquels ça a très bien marché, d'autres dans lesquels ça a pas marché. Mais le plus important, un peu comme disait Étienne, c'est d'être aligné avec soi-même, d'être, de communiquer. Ça c'est très très important. Ça peut éviter beaucoup de problèmes et désamorcer pas mal de bombes. Et après, je pense que bah, quand tu as une amitié, une proximité avec une personne comme on peut l'avoir, ça a quand même beaucoup de bienfaits et ça peut t'aider à aller beaucoup plus loin.
Donnez-moi un exemple où la communication a été, je sais pas si c'est mise à rude épreuve ou au contraire a été hyper importante. Tu vois, est-ce qu'il y a eu un déclic? Ça peut même être d'un point de vue perso. Mm-hmm. Vous aidez aussi sur le basket à l'époque, mais... Ouais, dites-moi.
Ouais, je pense en tout cas par exemple sur la première boîte du coup qu'on a montée avec X, Axel découvrait beaucoup ce monde et du coup il y avait beaucoup d'éducation à faire. Et pour être honnête, les débuts quand on a lancé la startup c'était assez compliqué. Et
du coup, tu veux nous repitcher X?
Ouais, bien sûr. X du coup c'est une startup qui fait de la gestion de données. On permettait à des entreprises qui développaient des systèmes autonomes ou des intelligences artificielles de trier et classer leurs données. Okay. Donc assez abstrait, notamment quand on vient du monde du basket. Et du coup, quand on a commencé, Axel, qui était un des premiers investisseurs, l'idée c'était de lui reporter en fait comment la boîte allait avancer. On est quand même une boîte où on n'a pas fait de revenus pendant peut-être un an et demi. Et donc avancer dans le brouillard comme ça, c'est un processus hyper entrepreneurial que qui est peut-être difficile à appréhender. Et donc, il y avait tout ce processus, en tout cas, d'éducation à faire pour que Axel comprenne l'environnement dans lequel on était, comment on avançait, et que du coup, qu'on ne mette pas notre relation avec tension parce que, par exemple, j'ai investi de l'argent, j'estime que j'aimerais avoir potentiellement un retour sur investissement dans X, Y années. Et donc, par rapport à ça, il fallait être hyper clair. Ouais.
C'est, toi, tu étais opérationnel et toi, Axel, tu as investi, c'est ça?
Ouais, j'étais le premier investisseur. Ouais.
Et c'était ton premier invest à toi?
Ouais, exactement. Enfin, invest tech, ouais.
Bah, ok, t'avais déjà fait d'autres invests avant ou...
J'avais fait un peu d'IMO en début de carrière et là, c'était le premier invest dans une startup. Ouais.
T'as pris le risque un peu tôt, non? Quand je dis tôt, c'est, en général, on te dit que c'est moins de 10% de ton patrimoine que tu dois mettre dans cet actif très risqué, mm-hmm. et le reste dans la pierre, dans les stock market. Tu t'es senti légitime à investir dans de la tech à ce moment-là? Tu l'as fait pour ton pote ou tu l'as fait vraiment en y croyant? C'est...
Non, je l'ai fait vraiment en y croyant parce que justement, je connaissais son outil de travail. Je savais que peu importe ce qui se passait, au moins il allait passer des journées à bosser et faire en sorte que ça marche. Et ça, c'était très important.
L'argent n'allait pas dormir.
Non, exactement. Je sais qu'il n'allait pas se reposer tant qu'il n'y a pas quelque chose qui marchait. Donc c'est la première raison qui m'a poussé à le faire. Et la deuxième aussi, j'étais un peu pris par l'aventure. Tu vois, c'est un monde auquel je commençais à m'intéresser. J'ai découvert un peu aux États-Unis, quand je suis arrivé en NBA, beaucoup de joueurs investissent justement dans la tech. Et j'ai commencé un peu à me prendre au jeu, à être curieux. Et ça a coïncidé avec justement le début de cette boîte. Donc encore une fois, c'est fait assez naturellement et pas vraiment de calcul.
T'étais aux US à ce moment-là, toi?
Ouais, j'étais aux US. Ouais.
Je juste comprendre un peu.
Je venais de rentrer des US.
Eux, c'était quoi le délire entre guillemets, les sportifs qui investissent dans la tech, qui plus est aux US et plus tôt. Et puis j'ai l'impression que l'écosystème startup était plus structuré. T'en entendais parler, ouais, tes coéquipiers?
Ouais, bien sûr. Bah, ça a commencé pas mal avec les Warriors à San Francisco. C'est un mouvement qui a été l'idée, je pense, par André Godala, qui est maintenant top VC, qui a son propre fonds, qui a bossé pour plusieurs fonds. Il y a LeBron James aussi qui a fait pas mal d'investissements qui ont bien marché, qui sont assez connus. Kobe Bryant aussi. Mm-hmm. Donc ouais, depuis, je dirais, ouais, 2014-2015, c'est vraiment trendy aux États-Unis. Et c'est un mouvement qui commence à arriver en Europe de plus en plus. Ouais.
Grâce à toi aussi. Je vais dire grâce à la culture ricaine, mais que tu nous rapportes. Bon, parlez-moi de Demos. Et je l'ai bien dit.
Tu l'as bien dit.
Qui pitch?
Ouais, je vais le pitcher. Demos, c'est un club d'investissement. Du coup, on investit dans des startups en early stage et spécifiquement dans les startups consumer. Donc, c'est des produits et des services que toi et moi, on peut utiliser tous les jours.
B2C, ouais.
Et la raison pour laquelle on a monté ce club avec Axel, c'est que pendant notamment notre aventure avec X Technologies, moi, c'était ma première boîte. Et on faisait une boîte de gestion de données, très B2B. Mm. Et je me suis rendu compte assez tôt que le truc qui me passionnait le plus, c'était les boîtes consumer. Et donc, en plus de ça, Axel, lui, on se rendait compte que son impact, il avait beaucoup d'impact dans la boîte, il ouvrait son carnet d'adresses, il débloquait des situations, mais qu'il peut avoir encore plus d'impact sur des boîtes consumer. Et donc, on s'est dit, pourquoi on n'essaye pas de faire, un truc qui nous passionne, deux, un truc où on va être d'autant plus efficace, et trois, ce qu'on avait aussi derrière la tête, c'était d'aller sur des projets qui pouvaient potentiellement impacter des millions de personnes, et ça, c'était quelque chose qui nous plaisait vraiment.
Et donc, B2B, tu trouves que l'impact était plus limité?
Non, je pense pas que c'est plus limité, c'est qu'il est juste différent, et je pense qu'il est en effet beaucoup plus palpable sur le consumer. Et donc, en fait, on a commencé à investir dans les boîtes consumer ensemble. On a eu la chance de notamment rentrer au capital de startups en France qui ont super bien marché, comme Sorare et We The New. Et ensuite, on a capitalisé là-dessus en montant un club avec les gens de notre entourage. Donc, on est à peu près une trentaine de personnes. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une diversité de profils qui nous ressemblent. On a beaucoup de gens qui sont des sportifs, des artistes, des influenceurs. On va avoir des entrepreneurs, des investisseurs professionnels qui bossent dans des fonds d'investissement en finance. Et en rassemblant toutes ces personnes, on a réussi à faire du coup un groupe de business angels qui rentrent dans des boîtes directement. Et donc, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on investit maintenant. On investit des tickets qui étaient assez modestes, de 10 à 50 000 euros. Et à ce jour, on a investi dans une quinzaine de boîtes à peu près.
Ok. En quel stade?
Donc en early stage, pre-seed jusqu'à de la série A.
Ok, d'accord. Bon, dédicace à David et Mike de We The New.
Exactement.
Et Nicolas, si tu nous écoutes, après mon peut-être 9 ou 10e email en 2 ans, peut-être que ça va le faire. Just saying, je lance la graine. Justement, ouais, Deimos et tous ces invests, c'est quoi l'intérêt, hormis l'intérêt pécunier? Pourquoi, et peut-être même toi, Axel, si tu veux en parler, c'est assez différent d'investir dans une boîte versus d'investir, enfin de gérer l'argent pour d'autres personnes et de proposer à d'autres personnes d'investir avec toi, quoi.
Ouais, moi, ce que je trouve incroyable dans ces invests, justement, c'est que ça te permet de connecter avec, comme tu le disais, des fondateurs. On a eu la chance de boîtes qui ont très bien marché. Moi, typiquement, ma rencontre avec Nicolas, et les discussions que j'ai eues avec lui, ça m'a ouvert beaucoup de perspectives, ça a vraiment aiguisé ma vision et ça m'a rendu beaucoup plus confiant sur beaucoup de choses.
Vous l'avez rencontré avant, les 680 millions de SoftBank?
Ouais.
Ah ouais, ok. Non, parce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il a quand même galéré à lever sur la place parisienne son seed et ensuite 700 millions américains.
Bah, c'est un entrepreneur assez
résilient.
Résilient, assez exceptionnel. Mais ouais, tu vois, ce côté un peu pouvoir connecter avec les fondateurs, je trouve ça incroyable. C'est souvent ce que je dis aussi à d'autres sportifs qui sont intéressés par le monde de la tech. Tu as l'aspect pécunier, comme tu dis, de l'investissement, mais tu as aussi tout le côté où tu vas apprendre, où demain, si tu montes une boîte, tu vas pouvoir avoir des gens avec qui parler, qui vont pouvoir t'aider. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais des fois, c'est mieux de faire ça que de... tu vois, se payer une formation ou...
Tu me parles d'humain, là, en fait.
Hein?
Tu parles d'humain.
Ouais, je parle d'humain, bien sûr.
Okay.
Et nous, les sportifs, c'est quelque chose sur lequel on est... qui est très important pour nous. Donc, c'est quelque chose que souvent je mets en avant et moi, quelque chose qui m'a énormément apporté. Hein.
Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao !